Cet enregistrement est le fruit d'une rencontre entre les élèves du lycée général de Mirande le 11 avril 2023 avec Émile Navarro, réalisateur du film « Des années de silence » qui interroge les anciens appelés de la guerre d'Algérie, et Rémi Serre de la 4ACG, une association d'anciens appelés qui ont décidé de reverser leur pension de guerre à des projets de solidarité en Algérie et ailleurs. Cette rencontre a eu lieu à l'initiative des professeurs d'histoire géo, M. Néré et Mme Buffard, le 11 avril 2023. Première partie.
Monsieur Navarro est réalisateur. Il vient nous présenter sa dernière production, Des années de silence, appelée en Algérie 1954 et 1962. Mais Monsieur Navarro a beaucoup travaillé sur la question de la mémoire, mémoire de la guerre d'Algérie, mais également mémoire de la guerre d'Espagne, notamment la question de la retirada. Et Madame Dufard, à plusieurs reprises, l'avait fait intervenir et lui avait permis de présenter ses films, un peu comme aujourd'hui nous le faisons à cette occasion. Avec une dimension supplémentaire au projet qui est donnée par Madame Alexandra Joss, qui nous a suggéré une rencontre avec d'anciens combattants de la guerre d'Algérie, et en particulier très vite Madame Joss, donc, qui est réalisatrice, qui fait partie de plusieurs associations, dont une association radio qui s'appelle Les Biens communs, mais aussi une association qui s'appelle 4ACG, c'est-à-dire l'association des anciens combattants et amis contre la guerre d'Algérie. Madame Joss, qui travaille sur des témoignages, m'a très vite parlé de Monsieur Rémi Serre, que je vous présente, qui est devant vous. Donc bonjour Monsieur Serre, et un grand merci à vous d'être venu témoigner sur ce conflit. Dans quel cadre se place donc cette projection ? Dans le cadre du tronc commun en histoire, vous avez eu à travailler la décolonisation, et notamment la décolonisation française, en particulier la guerre d'Algérie. Et les élèves en AGSP, les élèves de terminale, ont travaillé plus profondément sur la notion de mémoire, des mémoires de la guerre d'Algérie. Donc c'est tout à fait cohérent de faire ce travail aujourd'hui, de réaliser cette projection, et ensuite de réaliser un échange pour pouvoir compléter vos connaissances au moyen du témoignage, car l'histoire se fait également avec des témoignages. Je vais céder la parole à M. Navarro.
Bonjour et merci d'être là. Je voudrais remercier les deux professeurs qui font un travail formidable ici à Mirande. Je suis venu déjà deux fois pour mes films espagnols, effectivement, dont vous avez cité La Retirada et 70 ans de silence aussi. Et c'est toujours un bonheur d'être là, face à vous, parce que vous êtes l'avenir. Et ce film, il mérite d'être montré et de le partager, parce que c'est une histoire qui nous a marqué. Enfin, moi, je n'ai pas fait la guerre d'Algérie comme Rémi, mais j'avais un beau-frère qui avait fait la guerre d'Algérie. Je dis qu'il avait fait parce qu'il est décédé maintenant. Et on s'accrochait énormément, parce que chaque fois qu'il voyait un musulman, il le traitait de bougnoun. Et ça, je n'appréciais pas du tout. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça ? Il me dit, tu ne peux pas savoir, tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Quand tu arrives dans une opération et que tu as des copains émasculés et la gorge tranchée, tu ne peux qu'être amer comme il l'était, quoi. Je lui dis, écoute, je ferai un jour un documentaire sur ce que tu as vécu en Algérie. Alors, il était d'accord. Et lorsque j'ai projeté la retirada aussi encore dans le nord de la France, à Mantes-la-Jolie, figurez-vous qu'à la fin de la projection, il y a un jeune homme qui me dit « Monsieur, c'est bien beau vos films en espagnol, mais pourquoi vous ne faites pas un film sur l'Algérie ?» Je lui dis « Mais j'y ai déjà songé, et c'est une très bonne question que tu poses. » Et voilà pourquoi j'ai fait ce film. Voilà. Je m'embrouille un peu tout, mais je mélange tout comme d'habitude tout. Mais l'essentiel, c'est que je remercie vous, les professeurs et les élèves. Et je suis ravi de partager ce film avec vous. Et je remercie aussi Rémi, parce que c'est le premier que j'ai interviewé. Ben voilà. Après, on pourra discuter.
Eh bien, merci beaucoup.
Ben, avec plaisir.
C'est prévu comme ça.
Bon, c'est pour vous. Bon, ça.
Donc, ce qu'on vous propose après la diffusion de ce documentaire, c'est d'organiser un débat entre vous et M. Navarro et M. Serre, concernant, on va essayer de balayer cinq questionnements concernant la guerre, dont l'engagement des appelés, comment cet engagement s'est-il déroulé. Ensuite, on a pensé aussi à aborder la question du refus. Certains ont refusé d'y aller, d'autres y sont allés, mais ont fait d'autres choix, une fois dans les rangs des appelés. Un troisième axe qui concernerait le quotidien de nos appelés. En quatrième temps, les violences de la guerre. Et on finirait par ce qui faisait le chapeau de votre programme, en fait, sur les mémoires. Donc la mémoire du conflit, la mémoire de la guerre d'Alger. Vous pouvez poser vos questions.
J'aimerais savoir si dans l'Assemblée qui est là, ces jeunes n'ont pas un grand-père, un oncle qui a fait l'Algérie, quoi, qui a été appelé en Algérie. Est-ce qu'il y en a beaucoup dans la... En principe, il y en a beaucoup. Donc, ils ont entendu parler de la guerre d'Algérie, ou pas. Ça c'est important, parce que c'est notre quotidien. Enfin, c'est une guerre qui a eu lieu et qui... Voilà.
Lise, tu l'avais entendu parler chez toi?
Mon grand-oncle, il a écrit ses mémoires sur la guerre d'Algérie.
Sarah?
Mon grand-père aussi, oui.
Et les autres élèves qui avaient levé le doigt, vous en avez entendu parler au sein de vos familles ou pas? Là, je vois pas qui c'est qui lève le doigt. Eva?
Personnellement, c'est mon grand-oncle. Je l'ai appris le jour de l'enterrement. En fait, il nous en avait jamais parlé avant. Une fois, on demande parce qu'il y avait une cérémonie particulière. Mais sinon, non, il n'en avait jamais parlé.
Et une fois que tu as su ça, est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi il n'en avait jamais parlé? Est-ce que du coup, autour de toi, dans ta famille, tu as posé des questions?
C'était il y a très longtemps. Et la réponse qu'on m'a dit, c'était qu'en fait, il avait toujours dit ce qui se passait à la guerre et à la guerre. Donc, j'avais pas à poser de questions.
D'accord.
L'intitulé de, des années de silence, c'est bien ça, non? En fait, il ne parlait pas. Tous ne parlaient pas.
Vous avez préparé des questions ou vous voulez que on présente un peu comme vous voulez faire?
Et les élèves ont préparé quelques questions.
On passe directement aux questions, comme vous voulez.
Charlie.
Quand vous y étiez, vous, est-ce que vous étiez appelé dans le cadre du service militaire, rappelé après, ou militaire du coup de profession?
À l'époque, il y avait le service militaire. Le service militaire, il était de 18 mois. De 18 mois, tu faisais ta première affaire la guerre et puis tu rentrais à la maison. Puis il y a eu la guerre d'Algérie. Donc, au lieu de faire le service militaire en France, tu allais au bout de 4 mois de classe faire la guerre en Algérie. Et ça, il y avait, au lieu de 18 mois, ça a été 24, puis 27, puis 28, certains 30. Nous étions de simples appelés, on n'avait rien demandé. Et on était obligé, l'Indochine par exemple, qui avait eu lieu avant, il n'y avait que des engagés, des gens qui, c'est leur métier. Mais nous, on était des appelés. Et ceux qui n'ont pas voulu y aller, ils sont allés en prison, voilà. Ce que j'admire le plus, moi, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais c'est ceux qui ont refusé de faire la guerre. Parce que la guerre, pour faire la guerre, il faut être quatre parties, pas quatre parties. Il y a quatre parties dans la guerre. Il y a les politiques qui décident de la guerre pour agrandir leur territoire, pour, comme à l'Algérie, garder le pouvoir. Après, il y a les gens qui font les armes. Ils ont intérêt à faire la guerre. Ils ont intérêt à faire la guerre parce que leur usine, ça marche bien. Et puis, il y a encore les engagés, ceux qui font la guerre, qui sont engagés, comme aujourd'hui l'armée de métier. Aujourd'hui, il n'y a que l'armée de métier, mais à l'époque, il y avait l'armée de métier et les appelés. Là aussi, ils ont intérêt à faire la guerre. Puisque quand tu es engagé, tu montes plus vite en grade. Et puis c'est leur métier, ils ont voulu ça, c'est ça. Seulement voilà, ces gens-là, il faut trouver un quatrième pour aller faire le pantin, là-haut. Pour aller faire tuer des gens, des braves gens, les uns contre les autres. Les Allemands contre les Français, les Algériens contre les Français. Et alors là, c'est pas évident de trouver ça, parce que personne ne part à la guerre en chantant. Donc on leur mord le mou, donc à nous. On leur dit la patrie, on leur dit la race, on leur dit la couleur de peau. Et puis, il y en a qui se décident à partir, Et une fois que tu es parti, tu as des gens de ton bord qui sont tués. Il y en a des gens aussi de votre camp, mais ceux qui sont de ton bord qui sont tués, ben ça te, tu deviens guerrier, tu deviens méchant. Et c'est parti. Et alors, qu'est-ce que c'est la guerre? C'est des braves gens qui se battent les uns contre les autres. Et si ceux qui commandent la guerre la faisaient, il n'y en aurait pas. Voilà un peu notre situation. On est parti là-bas. On nous a volé 2 ans de notre vie. Parce qu'il y en a qui disent qu'il a donné la vie pour sa patrie. Il n'a pas donné la vie pour sa patrie. On lui a volé la vie pour sa patrie. Et puis, sans savoir, très vite, on a compris, quand on était là-bas, qu'on était en train de défendre des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Même si à l'époque, on n'avait pas la maturité politique que nous avons aujourd'hui, on a très vite compris qu'on était là-bas pour défendre les gros colons. Je ne dis pas tous les colons, parce que tous les colons n'étaient pas des riches. Mais certains colons qui ne voulaient pas renoncer à leurs privilèges parce qu'ils faisaient travailler les gens pour pas trop d'argent et qui gagnaient des sous sur le dos des Maghrébins et des Arabes. Et un jour, en 1954, quand ils en ont eu marre, eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de se révolter et de prendre les armes. Et la guerre a duré 7 ans ou 8 ans.
Qui d'autre a préparé des questions? Vous avez la chance d'avoir un ancien appelé. Poser des questions.
Il faut en profiter très vite parce que la moyenne d'âge de ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, c'est 85 ans pour l'âge, à peu près. Et donc, après nous, il y aura des historiens, mais il n'y aura plus de témoins. Donc, ce sera pas tout à fait la même chose. Quoi.
Voilà. D'autres questions sur les conditions de l'engagement, Charlie?
Et du coup, dans la suite de la question que j'ai posée tout à l'heure, c'était quoi vous, votre réaction quand vous avez été appelé? Comment vous avez réagi à ça? Est-ce que vous avez songé à déserter?
Pour ma part, non, j'étais dans les montagnes aveyronnaises, là-haut, dans des fermes isolées, où il n'y avait pas de télévision, bien sûr. Il y avait très peu de radio, quelques journaux. Mais on ne savait pas du tout ce que c'était la guerre d'Algérie. Quoi. Donc on est parti sans savoir où on allait, sans savoir ce qu'on allait faire. Et je crois l'avoir dit dans le film, j'avais vu la mer, on n'avait jamais vu un bateau. Donc on part là-bas sans savoir. Donc on est parti comme des moutons, sans réfléchir. Ce gars-là, Robert Siméon, que je connais personnellement, qui dit « j'ai refusé d'y aller », lui, il avait milité dans des syndicats parisiens, j'étais à Paris, et il avait une maturité politique. Et il a dit, moi, j'y vais pas, quoi. Je peux pas cautionner ça. Mais nous, on ne savait pas. On est parti là-bas sans savoir ce qu'on allait faire. Très vite, dans les chambrées, on avait compris qu'on n'était pas là pour ramener quelques terroristes à la raison. Parce que maintenant, ceux qui manifestent, ils sont traités de terroristes, comme à l'époque, eux, ils étaient traités de terroristes. Ce n'étaient pas des terroristes, c'est des gens qui voulaient un peu plus d'égalité. Un peu plus d'égal à égal entre les Algériens et les Français de souche. Et le code indigène, puisque c'était des indigènes, c'était juste le code au-dessus de l'esclavage. D'ailleurs, avant de prendre les armes en 1954, ils ont essayé de négocier avec le gouvernement français. Et les négociations ont failli aboutir, mais il y avait quelques colons très riches et quelques commandants ou capitaines ou généraux qui avaient perdu la guerre d'Indochine, ça leur était resté un peu sur l'estomac. Et ils voulaient se venger avec la guerre d'Algérie. Quoi. Il y a eu une connivence de ces colons très riches et de ces généraux qui avaient perdu la guerre d'Indochine, qui ont fait qu'il n'y a eu aucune concession de fait. Et que, voilà, les Algériens ont pris le maquis. Nous avons rencontré des anciens combattants, dont un qui avait mon âge et qui avait combattu au même endroit. Et qui me disait peut-être qu'on n'aurait pas dû prendre les armes. On aurait dû essayer de gagner l'indépendance, comme Gandhi ou des gens qui ont gagné l'indépendance sans prendre les armes, en brûlant des fermes, en allant pas au travail, en contestant sous d'autres formes que des armes. Et il disait, il y aurait eu des morts, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y en aurait eu 500 000 à 1 million comme ils ont payé? Puisqu'il y en a quand même eu 1 million qui sont morts, pas au combat tous, mais dans les regroupements, puisque pour avoir plus facile de combattre les montagnes, on rassemblait les gens autour des villes. Et là, c'était pas des camps, c'était pas des camps comme en Allemagne. C'était des camps où souvent les gens ils crevaient de faim et de froid. Parce qu'ils avaient quatre poules, ils avaient une chèvre, ils avaient un lopin de terre dans les montagnes. Ils avaient tout abandonné. Il y a eu quand même 2 millions de gens qui ont été déplacés sur 8 millions. C'est énorme, quoi. Ça a vidé les campagnes pour pouvoir tuer tout ce qu'ils voulaient, pour que les fers de la gare viennent pas se ravitailler et pour avoir plus commode pour démolir ces villages avec l'aviation. Donc, ce gars-là, et entre autres, il disait peut-être qu'on aurait mieux fait de ne pas faire la guerre avec des armes, d'essayer de mettre ce colon, parce qu'il ne voulait pas qu'il parte, hein, c'est pas ce colon dehors même, mais il voulait que ce soit plus juste.
Après, il ne faut pas que vous oubliez aussi que quand ils ont été appelés, on ne parlait pas de guerre. Hein. Là, on parlait d'opérations de maintien de l'ordre en Algérie, de pacification. Là, je vous rappelle que en France, on ne reconnaît le terme, l'idée de guerre d'Algérie que depuis très peu de temps, depuis 1999. Donc pour eux, ce n'était pas la guerre. On leur mentait sur la nature du départ.
Pour refuser de prendre les armes, il faut aussi se sentir soutenu. On a travaillé un extrait d'un témoignage de M. Faget avec les élèves, où visiblement il y avait des manifestations invitant les appelés à ne pas y aller. Est-ce que vous avez vu ce type d'opposition de la part d'une partie de l'opinion publique française à l'engagement dans le conflit ?
Non, moi j'ai pas vu ça, et ça s'est passé surtout en Bretagne, où c'était du temps de rappeler, parce que quand la guerre s'est déclenchée, il y avait des militaires qui avaient fait 18 mois. Et donc, les dernières classes qui avaient fait 18 mois, on les a rappelés. Et alors ces gens-là déjà étaient revenus dans le civil et avaient des fois créé une famille et puis une entreprise. Ces gens-là n'étaient pas du tout disposés à repartir. Et là, il y a eu des mouvements de contestation sous toutes les formes, des gens qui se couchaient sur la voie ferrée, qui essayaient d'arrêter les trains par tous les moyens, et puis des tracts. Mais nous, déjà, moi je suis parti en 58. Voilà, c'était en marche. Et la contestation, il n'y en avait plus. Peut-être quelque part, mais il y a eu toujours des contestations, bien sûr. Il y a eu des journaux comme Témoignage Chrétien ou Le Canard Enchaîné, qui étaient d'ailleurs à l'époque interdits, qui passaient sous table et qui essayaient de maintenir cette contestation. Mais sinon, après, la presse et tout, on ne parlait plus de ça. C'était normal qu'on aille à l'Algérie faire la guerre.
Avez-vous d'autres questions à poser sur les conditions de l'engagement ? Sinon, on peut passer à la question du refus de l'engagement.
Je ne sais pas si ça rentre dans l'engagement, mais une fois que vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas les valeurs, que ce que vous faisiez, ce n'était pas ce qu'on vous avait vendu de base, est-ce que vous en avez discuté avec les autres soldats ? Et pourquoi vous avez continué, mis à part le fait qu'il y avait les sanctions ?
Quand tu étais là-bas, beaucoup de soldats étaient dans les montagnes. Parce que le maquis, c'était la Kabylie, les Aurès. Les gens, ils se cachent pas dans les plaines. Donc on occupait ce terrain, pour ma part en tout cas. Et alors on se posait la question, bien sûr, qu'est-ce qu'on fout là ? On est là pour tuer des gens, pour se faire tuer, et pour attendre la fin. Donc on n'était pas du tout motivés de rester là. Mais comment partir ? Et quelquefois, nous descendions, pour notre part en tout cas, à Tizi Ouzou, pour se ravitailler en armes, en munitions et en vivres aussi. Et là, dans la journée, t'aurais pu à la limite te cacher dans la ville. Mais après tu fais quoi après ? Après tu as où ? Tu peux pas déserter. Et en plus, l'opinion, enfin, les dirigeants, les politiques et les gendarmes de la base, tu veux, t'es mis en recherche tout de suite. Comment quitter l'Algérie, comment aller en Suisse, par exemple, ou ailleurs, pour te cacher. Il y a eu un cas, il y a eu plusieurs cas, d'ailleurs, mais bon, j'en connais un qui... le gars, le soir, c'est un gradé. Il apprend qu'on devait tuer un prisonnier le lendemain matin. Donc il dit, c'est pas possible, c'est inadmissible, et dans la nuit, il se lève, il détache le prisonnier et il part dans le maquis. Il part dans le maquis seulement. Dans le maquis, il a été appelé à tirer sur l'armée française. Et il ne voulait pas plus tuer l'armée française que celui, lui, comme beaucoup d'autres. Il était contre la mort, contre la guerre. Et alors, il a essayé par tous les moyens de partir, et il a réussi à partir en Amérique, mais parce que c'était un débrouillard, parce que, mais il n'y avait pas, c'était pas évident. C'était pas du tout évident de quitter l'armée, quoi. Et en plus, ou au moins partir pour aller dans l'autre camp, moi, ça ne m'intéressait pas, quoi. C'est pas que j'en pouvais pas. Nous approuvions tous la révolution de ces gens qui voulaient un peu plus de justice. Mais partir dans notre camp, c'était beaucoup risqué. Et puis il faut être courageux, quitter les siens pour aller après, être appelé à tuer sur les siens. Parce que ce Noël-là que je vous parle, il a été appelé à tirer sur les siens. Et il a été, je ne sais pas s'il a tué, mais il risquait de tuer des copains d'hier, copains entre guillemets, parce que nous. C'est pas parce qu'on est plus français qu'on est plus copains, on est comme ça. Voilà. Donc c'était pas facile.
Ouais, mais on peut ajouter qu'il a été caché par des Algériens, oui. Des parents du gars qui l'a mené un coup pour la tuer.
Oui. J'avais une question vis-à-vis au sein des rangs, par rapport aux soldats. Quelle proportion il y en avait qui refusaient la guerre? Parce que j'ai du mal à me représenter quelle quantité, je ne sais pas si...
Ah, il y en a très peu. Ils ont fait un film, là, Les Réfractaires, j'en connais quelques-uns, moi. Et ils pensaient que ça allait faire boule de neige, qu'il allait y avoir pas mal. Et on parle d'une trentaine, c'est tout. C'est vraiment insignifiant, quoi. Donc, on est comme des moutons, on suit, quoi. On écoute. Comme les Juifs pendant la guerre, quand on leur disait d'aller à la gare, ils allaient tous à la gare. Et alors, on ne comprend pas, mais moi, je vous encourage. Je vous encourage dans votre vie, parce que... Parmi vous, il y a des futurs responsables, des futurs hommes politiques, à dire non, non, ça je ne le fais pas, je ne peux pas le faire, voilà. Et si ce soir, on s'est convaincu que des fois il faut dire non, c'est déjà un point de vue. Il y a des fois, il ne faut pas obéir, quoi. Et alors qu'à l'armée, on fait tout pour que tu obéisses, les 4 mois de classe, on t'a plein à obéir. Et chercher à comprendre, c'est commencer à désobéir. Et on te mate jusqu'à ce que tu obéisses. Parce que pour en faire de vrais soldats, il faut obéir, sinon on va, quoi. Si les gradés ne commandent plus, ça ne va plus.
Alors sur le refus de la guerre, pendant le film, je me suis posé une question sur les conséquences pour ceux qui faisaient partie de ces regroupements. Qui rejoignaient en fait les objectifs du FLN. Quelles ont été, après la guerre, les conséquences pour ces appelés qui avaient fait ce choix-là?
Bon, les appelés européens, ils s'en sont bien sortis. Ceux qui s'en sont mal sortis, c'est les harkis. Les harkis, c'était des Algériens qui s'étaient engagés dans l'armée française. Et donc, à la fin de la guerre, les accords d'Évian avaient promis de les prendre en France. Les accords d'Évian n'étaient pas, ils étaient ce qu'ils étaient, mais c'était pas le pire. Les pieds noirs auraient pu rester là-bas. Mais après, ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Et eux, ça a été la politique de la terre brûlée. C'était 4 généraux qui n'abstentaient pas de donner l'indépendance à l'Algérie et qui aidaient de quelques riches colons. On crée cette organisation de l'armée secrète. Du coup, ils ont fait partir les pieds noirs, puisque s'il y avait des pieds noirs qui étaient pour l'indépendance, ils étaient tués comme les Algériens. Donc, ils ont fait le plus de mal qu'on pouvait faire. Les harkis, du coup, quelques-uns sont venus en France, quelques-uns sont restés là-bas. Ça a été la dépendance la plus complète. Ceux qui sont restés là-bas, je ne vous dis pas comment ils ont été traités. La plupart ont été tués et les autres ont été torturés avant de se tuer. Et donc, si les accords d'Évian avaient été respectés, les harkis auraient eu notre sort, les pieds noirs auraient pu rester là-bas. Et la religion catholique qui était implantée là-bas pas mal, c'est pas que de veuillez défendre la religion, loin de là. Mais il y avait des églises partout, et il y avait une religion musulmane, une religion catholique. Il n'y aurait pas eu cet intégrisme qu'il y a aujourd'hui, parce que
Les églises sont toutes transformées en mosquées là-bas. Il n'y a pratiquement plus de fenêtres et de souches là-bas. Donc, la guerre d'Algérie n'est pas finie. Tous ces attentats, tout ce qui se passe en France, que vous savez aussi bien que moi, c'est des suites de la guerre d'Algérie. Les tortures et tout ça c'est ressorti avec l'OAS. Et donc, voilà, c'est ce qui a fait les 7 ans de guerre. C'était déjà pas mal. Mais la terminaison de cette guerre a été une vraie catastrophe.
Élie souhaite intervenir.
Quelle tâche réalisez-vous durant votre service?
C'était assez divers. Il y avait des gens planqués, il y avait des gens en ville qui il y avait toute une organisation il y avait entre 400 000 hommes qui étaient là-bas en permanence. Donc il faut les faire manger, il faut les approvisionner en armes. Donc il y en a beaucoup qui étaient dans les services. Et puis il y avait les gens comme nous qui étions dans les montagnes, qui étaient chargés de faire la chasse à l'homme. Donc de temps en temps, nous restions au poste, des postes de 120 bonhommes, éparpillés dans toute la Kabylie pour notre part. Et des fois, il nous arrivait de faire des bonnes actions, de faire l'école du village. Il y avait un de nous qui était un peu plus instruit, qui faisait l'école au village et qui... il nous arrivait aussi, par l'intermédiaire des SAS, d'apporter de la bouffe à ces regroupements de population. Mais il nous arrivait surtout de faire la chasse à l'homme. Donc nous partions dans les montagnes environnantes, parce que là-bas, il y a des montagnes. Ici, le jus du Jura, ça fait 2000 mètres. Et nous chassions l'homme. Alors, il y avait des gens qui se postaient dans la vallée, puis d'autres que l'hélicoptère apportait sur le piton. Et puis, il y avait un soldat tous les 10 mètres qui descendait et on ratissait la montagne. Et là, le Fellaga, il pouvait se cacher s'il y avait une place dans une grotte ou passer entre les mailles, mais il y avait beaucoup qui tombaient dans le panneau. Et après, il y avait des appelés qui n'étaient pas tous des tueurs. Il y avait ce monsieur Joudi Atoumi que j'avais rencontré. Il m'a dit, par deux fois, on n'a pas voulu me tuer. Une fois, nous descendions dans la montagne. Et je m'étais caché à côté d'une source. Et les soldats passent et ils ne me voient pas. Et ils commençaient à respirer quand un des soldats, qui connaissait bien le coin, se retourne et vient remplir la gourde à la source. Et il me voit. Et il dit, il va me partager avec sa mitraillette. Et puis, il remplit sa gourde, il fait un clin d'œil et il s'en va. Et une autre fois, ils étaient entourés dans de petits bosquets par toute une mitraille tout le tour. Et l'aviation arrive avec une palme, soit tu te fais griller comme un lapin, soit tu sors et tu es tué sur la route. Et alors, ils étaient trois, ils ont dit, on sort, on essaye de sortir. Et un des soldats qui était à la mitrailleuse lui fait signe de passer. Et ils ont pensé que c'était pour mieux le tuer, et puis non, il a tiré en l'air. Donc voilà, on n'était pas tous des tortureurs, on n'était pas tous des violeurs, mais parmi nous, les appelés... Il y en avait qui, sous l'effet de l'alcool, de la solitude, ou de l'éducation peut-être qu'on a eue aussi, devenaient de vrais tueurs. Et puis, il y en avait aussi qui ont vu pire que ce que nous avons vu, qui ont eu beaucoup de copains tués et qui sont devenus tueurs, comme le gars qui a fait après la pièce de théâtre, qui d'un brave gars était devenu un tueur. Et moi, je ne juge personne. Mais il y en avait qui ont gardé un peu leur sang-froid et puis d'autres beaucoup moins.
On a deux questions dans l'ordre, il me semble, Élie et ensuite Charlie.
Est-ce que d'après vous, les appelés étaient responsables d'actes qu'ils ont commis ou c'était sous obligation militaire?
Pardon, je n'ai pas compris.
Est-ce que d'après vous, les appelés étaient responsables des actes qu'ils ont commis ou c'était totalement par obligation?
Ah, il y a les deux, hein. Il y a les deux. Puis personne n'était quand même obligé à violer. Une femme dans la montagne. Après, il y avait des gradés, justement, qui étaient contre le viol et qui interdisaient formellement ce genre de torture. Et puis, il y en avait qu'au contraire, c'était eux qui passaient devant, donc c'était très divers. Il y avait des gens qui prenaient plaisir, je pense qu'ils prenaient plaisir à torturer. et puis d'autres qui le faisaient contre et forcé. Donc c'était pas, c'était très, très divers.
Charlie.
Est-ce que vous trouvez que justement ce quotidien des athées, ça déshumanise ou au contraire, est-ce que ça renforce les idées pacifistes?
Le fait de faire la guerre?
Oui, et particulièrement le quotidien des athées, être forcé à faire des choses qu'on ne veut pas faire. La solitude.
Moi, je pense que la solitude et l'alcool et plein de choses qui. Et plein de choses qui te font que. Au bout de 28 mois, tu n'es plus le même homme. Ça te change, ça te mûrit. Mais là aussi, tout le monde ne réagit pas pareil. Notre association de la 4CG, on en parlera peut-être tout à l'heure, la plupart des gens qui viennent réfléchissent déjà parce que actuellement, on touche 850 euros par an. Donc le gars qui donne 850 euros, même s'il est riche, même s'il est aisé, on va dire, c'est pas l'association du coin où tu donnes 20 euros, tu réfléchis déjà. Ils sont ces gens-là qui sont venus à la 4ACG, on est monté jusqu'à 130, qui reversions la totalité de notre pension. Je manque de modestie, mais enfin, je vais dire que peut-être ils réfléchissent plus que s'ils sont l'avnaka. Que certains sont de vrais racistes. Quoi. Le mot bougnoul, que moi j'ai du mal à prononcer, une fois on était à une réunion où nous parlions quelques-uns des Arabes ou de FLN, et quelqu'un de nous il dit, vous ne pouvez pas dire les bougnoul comme tout le monde. Quoi. Donc je ne dirais pas que l'Amnaka, loin de là, tout le monde est raciste, mais... Il y a des gens qui sont venus de là-bas en disant « C'est dommage qu'on n'en ait pas tué plus. » Et puis, il y a des gens qui disent « Peut-être qu'on a pu faire mieux. » Donc, je ne peux pas... Voilà, je ne juge surtout personne. Mais la réponse, elle est très diverse.
Donc, on ne peut pas parler de brutalisation systématique de tous les combattants.
Ah, sûrement pas, non. Ouais. Sûrement pas. Après, il y a ce que je dis au film. C'est ce que nous n'avons pas fait et qu'on aurait dû faire. Par exemple, au fond d'une vallée, un gars qui nous avait dit qu'il y avait une cache. Et puis, quand on est arrivé à l'endroit, il ne trouve pas la cache. Il ne la trouve pas, ou il peut-être ne savait pas où elle était, parce que sous la torture, tu dis n'importe quoi. Eh bien, un gradé, un Corse, là, qui était réputé pour être... un très méchant, il s'est mis à taper sur ce monsieur. Comme moi, j'ai jamais paysan, j'ai jamais tapé sur une bête comme ça. Et on n'a rien fait. Et bien, peut-être il fallait se mettre à quatre et puis attraper l'adjudant et lui dire arrête, sinon on va t'en foutre une. Mais ça, c'est le conseil de guerre. C'est le tribunal. Si à l'époque, il y avait même encore la guillotine, tu pouvais être tué pour ça. Donc, il faut être courageux. Et nous, on n'a pas été... Des exemples comme ça, je peux vous en citer d'autres, où j'ai été témoin et j'ai fermé les yeux. Donc, c'est pas... C'est pas, c'est ça qui te reste toute ta vie, quoi. Tu dis, mais je n'ai pas été très courageux. Et tu peux que le déplorer, mais tu ne peux pas le rattraper. Plus fort, parce que quand on est vieux, on n'entend pas. Bon, le sentiment, je viens de te le dire. Le sentiment, tu peux avoir que des regrets, des remords. Et voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, j'aurais pu mieux faire, et encore, avec la maturité politique que nous avions à l'époque, est-ce que nous étions capables de dire non? Parce que maintenant, là, entre vous, là, vous discutez, vous avez Internet, vous savez ce qui se passe dans le monde. Je ne sais pas si vous êtes plus intelligent ou pas, mais en tout cas, vous êtes informés. Nous, on n'était pas informés. On n'était pas informés dans le bled que nous étions. Il n'y avait aucun journal. S'il y avait un journal, qu'il y en avait un de nous qui était un peu plus un peu plus avertis que les autres, mais dans les colis. On y glissait témoignages chrétiens ou quelques journaux contestataires. Mais sinon, il n'y avait que le journal qui s'appelait Le Bled. Le Bled, c'était les opérations militaires que nous faisions et comment on avait pacifié un village, comment, enfin, tout était en notre faveur. Sinon, il n'y avait rien contre... Il n'y avait pas de position à la guerre. Donc, tu voilà, on était là et on était dépourvus, on n'était pas informés. Et on ne faisait rien. On ne faisait rien, on écoutait les autres. Voilà, on écoutait. Souvent, on partait en opération, le soir en opération, ça veut dire que tu partais dans la montagne pour 3 ou 4 jours. Et on partait à la tombée de la nuit. Normalement, il ne fallait pas savoir où t'allais, parce que c'était, il fallait obéir sur celui qui était devant toi. Souvent, on le savait, parce qu'il y avait des fuites, mais normalement, tu ne savais pas, donc tu étais à Betty. Ouais, t'étais un numéro. T'étais un numéro, et puis même s'il y en avait parmi nous des tués, c'était pas un drame. Hein. Nos gradés avaient droit à 2 ou 3 % de pertes, sans avoir des poursuites. Après, s'il y avait trop de morts, il fallait en rendre compte. Mais jusqu'à 2 ou 3 % de pertes, ça faisait partie du jeu. Et quelqu'un disait une fois, ça je l'ai entendu, je ne l'ai pas vu. Hein. Un gradé qui est généralisé de ce côté-là, là-bas, au fond de la Kabylie, on a pas mal de pertes. Et alors, le gars, il répond, mais ça, encore une fois, moi, je ne l'ai pas entendu, donc je répète, mais s'il y a des pertes, ils sont faits pour ça. Voilà. Donc, il ne faut pas s'affoler. Un mort, ça ne changeait pas la marche de la France.
Avez-vous d'autres questions sur ce point-là ? Non ? Moi, je fais juste une remarque. Quand M. Serre évoque Le Bled, il évoque un journal qui était distribué aux appelés, aux combattants, et ça, c'est un aspect de la guerre psychologique, parce que la guerre d'Algérie a été aussi une guerre psychologique où là, il fallait entretenir le moral des combattants. Donc il y avait ce recours à la presse. Et puis M. Serre a évoqué également les SAS, et je voulais vous rappeler quel était le rôle des SAS. Plusieurs témoignages ont rappelé que la guerre d'Algérie, elle est dans la continuité de la guerre d'Indochine. Et l'objectif des cadres armés, c'est de ne surtout pas commettre les mêmes erreurs que pendant la guerre d'Indochine, et notamment se retrouver coupé de la population. Et donc les SAS participaient de cette volonté de maintenir un lien avec la population en faisant œuvre de scolarisation, en proposant également des services sanitaires. L'idée, c'était de couper la population, la majorité de la population civile, des combattants du FLN. Voilà, donc c'était les services administratifs spéciaux et qui avaient cette fonction-là. Et à un moment donné, dans le film de Monsieur Navarro, on a le témoignage d'un appelé qui était amené à faire l'école dans ce contexte-là.
Cette émission a été réalisée par Alexandra Joss pour Média Commun Occitanie. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.